Comme vous le savez sans doute, Mac Génération a récemment fêté ses 25 ans. Afin de marquer le coup, nous avons décidé de répondre à vos questions sur la vie de Mac G, autant celles destinées aux journalistes qu'aux développeurs. Nous avons donc enregistré en ce début de semaine une petite FAQ ayant eu lieu sur notre serveur Discord. Cet épisode spécial est donc l'enregistrement de lundi, que j'ai quelque peu retouché afin de le rendre plus fluide. Vous pourrez donc y entendre Florian et Christophe parler de la vie de la rédac, en espérant que cet épisode spécial vous plaise, bonne écoute. Super, on va pouvoir commencer. Donc, comme je le disais dans l'article, c'est avec une petite session de questions-réponses. Donc aujourd'hui, on est avec Christophe, le boss de Mac Génération, et avec Florian, le rédacteur en chef de Mac Génération, pour répondre à vos questions. J'en ai pris quelques-unes donc sur la news que j'ai posée, j'en ai reçu quelques-unes par mail, mais si vous en avez et que vous voulez en poser dans le chat, n'hésitez pas. On va commencer tout de suite avec une petite question pour toi, Christophe. C'est TomTom Rider qui demandait est-ce qu'on arrive à se voir physiquement souvent, parce qu'en effet, toi t'es en Allemagne, Nicolas en Bretagne, Pierre en région parisienne, et il demandait du coup, est-ce que c'est pas trop compliqué la gestion de l'entreprise en distanciel ?
Et Artem qui est d'abord. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Est-ce que la gestion de Mac Génération est compliquée en distanciel ? C'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au tout début de Mac Génération, c'était 100% du distanciel. Moi, j'étais à l'époque basé à Lyon. Puis alors, il y avait plein de personnes. Il y avait notamment Cyril, avec qui j'ai fondé Mac Génération, qui était en Suisse. Il y avait Vincent qui était à Reims, Benjamin qui était à Paris et d'autres un peu partout. Donc, et encore, on faisait ça quand même au début des années 2000, hein, donc on jouait avec iChat, c'était autre, et on n'avait quand même pas tous les outils de type, alors Mattermost c'est notre stack à nous, enfin voilà, c'était autrement plus compliqué et on y arrivait plutôt bien. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'à un moment donné, on a eu cependant un petit peu marre, et on a décidé en 2005, lorsqu'on a créé la Mac Génération en tant que société, de tout regrouper sur Lyon. Et donc, c'est là où on a pris des locaux, dans lesquels vous êtes toujours, d'ailleurs. Mmh. Voilà, et puis c'était bien. Et puis après, ça commençait un petit peu, notamment avec Nicolas, qui avait voulu prendre de l'air et aller en Bretagne. Et puis, il y a eu aussi Mickaël qui, à l'époque, était parti revivre au Canada. Donc, tout d'un coup, on a recommencé à avoir un mode de fonctionnement hybride. Non, mais je pense que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a des outils technologiques qui sont là. Après, oui, de temps en temps, il faut bien faire attention à ce que les informations circulent correctement. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, par exemple, des sujets qui ont été traités à Lyon et qui n'ont pas été vus avec les autres, ou même entre deux personnes en télétravail, enfin voilà. C'est le genre de... Il y a une petite gymnastique à faire, mais voilà, ça se fait bien. Et puis, alors est-ce qu'on arrive à tous voir ? C'est un peu le problème, ça. C'est pour ça qu'on va organiser cette année une journée spéciale. Comme ça, au moins, on sera tous certains de se rencontrer. Mais en tout cas, moi, je viens de temps à autre sur Lyon, et puis, ça arrive également à ce que, enfin, Nicolas notamment s'est annoncé sur Lyon au printemps, par exemple.
Et pour compléter ce que tu dis, il y a aussi le fait qu'on... Alors c'est peut-être un petit peu différent avec les développeurs, c'est qu'on est souvent à travailler seul sur un sujet. C'est-à-dire si on était dans un mode de fonctionnement ou dans un type d'entreprise où, par exemple, il y a vraiment un vrai travail d'équipe, alors c'est pas impossible de le faire quand on est en distanciel, ça marche très bien dans beaucoup de boîtes, sur des gros projets ou autres. Ce serait peut-être différent. Disons que là, il y a souvent, on va par exemple des fois discuter d'une idée de sujet comme ça, mais de manière un peu informelle entre nous, ou affecter un sujet, et puis après la personne s'en occupe toute seule, donc elle n'a pas à être en interaction souvent avec quelqu'un qui n'est peut-être pas sur Lyon, ou alors, Pierre qui est à Paris, j'aurai une question, je lui enverrai un mail, voilà, il me répondra, ou dans le chat, mais ça sera très rapide. Tout le temps, deux ou trois constamment sur quelque chose et où potentiellement ça pourrait être un peu plus compliqué. On est une organisation qui fait que le travail solo, si tout le monde est un peu dans ta gauche, finalement ça peut se faire. C'est pas trop pénalisant.
C'est ça, ouais. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, on va prendre une question. C'était Donatello. Qui demandait sur la question de la news. Il me semble que vous en avez déjà parlé par le passé, mais quelles ont été vos relations avec Apple France puis Apple Europe ? Donc, Florian.
Les relations avec Apple. Moi, j'ai connu, en fait, je reviendrai un petit peu là-dessus pour une autre question. J'ai connu, quand j'ai commencé, c'était vers la fin des années 90. Steve Jobs venait d'arriver, n'était pas encore arrivé. Donc voilà, c'était cette époque-là d'Apple, un petit peu avant la grosse reprise en main de Jobs. Et donc, je travaillais dans un magazine papier, c'était SVM Mac, et on avait des relations assez, j'allais dire étroites, c'est pas le bon mot, parce qu'on se téléphonait pas tous les jours, mais disons que les gens d'Apple, on était sur Paris, venaient nous montrer des fois des produits. Il y avait toujours, quand on avait une question, il y avait toujours un chef produit, un responsable quelque part chez Apple. On n'avait pas besoin de passer par l'attaché de presse pour lui poser une question, il répondait un peu. Et tout ça, il y a même une fois où on s'est fait prêter le premier iPod, on l'a eu chez SVM Mac avant qu'il soit vraiment commercialisé. C'était un produit fini, mais le logiciel était en bêta, donc c'est le genre de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Donc ça, c'était l'époque, un petit peu avant le retour de Steve Jobs. Et puis Jobs est arrivé, les choses se sont beaucoup plus centralisées, se sont beaucoup plus refermées. Et la politique vis-à-vis des supports aussi a changé, dans le sens où, en Europe en tout cas, en France notamment, c'est un peu le paradoxe, c'est que les sites Mac sont au second ou au troisième plan. C'est-à-dire qu'Apple a plutôt tendance à aller soit vers des généralistes, parce qu'ils veulent toucher des gens qui lisent pas qui s'intéressent pas à l'actualité informatique tous les jours, mais leur dire de temps en temps, vous rappelez les iPhones, vous rappelez les Apple Watch, donc ils vont par exemple contacter des magazines de santé quand il y a un truc autour de l'Apple Watch, c'est-à-dire de placer un peu le produit. Et puis sur les médiathèques, par contre, techniques, ils iront peut-être plus sur des sites comme Frandroid ou autres, Numérama, qui n'ont pas un lectorat qui est à 100% Apple, même si ils en ont très certainement pas mal. Mais Frandroid, par exemple, c'est Frandroid, le cœur de cible, c'est pas les propriétaires d'iPhone. Mais ils en parlent quand même. Apple leur prête des produits en avance, donc forcément, ils en parlent d'autant plus. Et là, Apple a tendance à aller vers eux parce que justement, il y a un public à convaincre, il y a un public à faire switcher. On le voit régulièrement à chaque fois qu'il y a des annonces de résultats financiers, il y a toujours un mot pour dire, bah tiens, on attend sur les clients d'iPhone là de ce trimestre, il y a tant de pourcents qui sont des premiers clients, sous-entendu qui étaient sur Android ou sur Mac, sous-entendu qui étaient sur Windows. Donc, ils ont tendance à aller vers des sites où le lectorat n'est pas acquis pour mettre un peu en avant leurs produits. Et nous, c'est un petit peu, de toute façon, votre lectorat chez MacG, à 99,9%, il est déjà équipé chez nous, donc on va pas s'embêter à vous prêter des produits. C'est gagné, quoi. Donc, on a quand même des relations dans le sens où quand il y a des, on n'a pas les produits en avance, comme c'est le cas après les annonces. On les a parfois un petit peu juste le jour ou la veille de la commercialisation. C'est-à-dire quand les premières batteries de tests sont déjà parues sur les sites américains et certains français. Donc c'est mieux que rien. Et puis après, le reste du temps, il n'y a pas beaucoup de relations. Tous les autres produits, on va dire 9 produits sur 10, on les achète sur l'Apple Store comme tout le monde fait. On les garde 15 jours et on les renvoie. Ça, on le fait depuis 15 ans. On a parfois des prêts de matériel sur une longue durée. Moi, j'ai un iPhone là actuellement. Il appartient à Apple. C'est un 14 Pro Max. Voilà, c'est pas le dernier. Mais parfois, il leur arrive de prêter un peu sur une longue durée. Donc, on a un mix comme ça. On a beaucoup d'appareils qu'on achète. Tout petit peu prêté par Apple, mais c'est vraiment, ça dépend vraiment des années. C'est très aléatoire. Et parfois, des prêts de matériel qui, les MacBook Pro, on en a testé, je veux pas dire de bêtises, on en a testé 4. On en a acheté 3 sur l'Apple Store. Donc, on les a renvoyés après. Et il y en a un qui était prêté par Apple parce qu'il avait la dalle nano texturée. Donc, pareil, on l'a testé. 15 jours, il est reparti. Et puis, ça se limite un petit peu à ça. On n'est pas trop dans les confidences parfois ils peuvent dire, là il va y avoir l'annonce je dis un peu au hasard, des Apple Store Awards, machin. Parfois, une année, ils vont nous le dire un peu avant, puis pendant 2 ans, ils vont pas nous le dire. C'est un petit peu, parfois, voilà, on a un truc comme ça qui tombe du ciel, c'est jamais des trucs, des informations énormes. C'est des relations, chacun fait un peu sa vie de son côté, de temps en temps, on se dit bonjour, et puis voilà.
Il y a Raoulito qui demande s'il y a un blacklistage anti-MacG chez Apple.
Non, c'est pas un blacklistage.
Tout ce que tu dis, Florian, est entièrement exact, mais ceci dit, bon, Le traitement que nous réserve Apple par rapport à notre positionnement, en tout cas sur le marché français, est complètement incompréhensible. Et effectivement, on a sans doute notre lectorat correspond au cœur de cible d'Apple, mais c'est pas pour autant qu'il faut le délaisser. Ceci dit, moi j'ai souvent entendu qu'on avait très 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 mauvaise presse au sein d'Apple Europe, et ça depuis une éternité. En fait, ça, on est mis un peu tous dans le même sac. Ça remonte en fait au début des années 2000, où Lionel de Macbidouille faisait beaucoup de rumeurs. Et il y avait eu à un moment donné, il y avait eu pendant quelque temps les rumeurs qui posaient, ces rumeurs que publiait Lionel posaient gros problèmes à Apple. Et grosso modo, ces sites Mac, et c'est vrai qu'en plus en France, il y avait eu quand même une certaine effervescence au début des années 2000, ils voulaient plus en entendre parler, on a tous été mis dans le même sac. Et voilà, et c'est quelque chose qui reste depuis tout ce temps, et il n'y a pas eu d'évolution. Alors voilà, Apple fait de temps en temps, enfin fait le service minimum avec nous. De temps en temps, on ne sait pas pourquoi, ils se montrent un petit peu sympas. De temps en temps, ils apprécient pas qu'on publie certaines choses, et alors là, bah, ils font un petit peu la tête. Bon, j'ai envie de dire que c'est un peu de bonne guerre.
Oui,
Mais
non.
voilà
Après, moi,
quoi.
je disais ça sur un ton un petit peu, comment dire, monocorde, mais j'étais un peu plus agacé par le passé. Après, on finit par un peu se lasser
Bien sûr,
et
oui.
dire, bon, voilà, j'étais un peu plus virulent des fois, parfois dans les échanges même. Mais oui, tu as raison. Je me souviens, par exemple, il y a des choses qu'ils aiment et qu'ils aimaient pas. Juste avant qu'ils ouvrent l'Apple Store des Champs-Élysées, c'était vraiment, donc c'était un très gros bâtiment. On s'attendait à ce que ça soit un Apple Store assez original par rapport aux autres. Je crois que c'était vraiment littéralement une semaine avant l'ouverture. On devait être invité, comme d'autres médias, à venir faire un tour. Et puis on a reçu un lecteur qui nous a envoyé des photos de l'intérieur des champs, qui était en train de se finaliser. S'il restait vraiment, on voyait, disant à quoi ça allait ressembler. Donc on a publié les photos parce que c'était intéressant. L'invitation, évidemment, finalement, on l'a pas eu. Donc on n'est pas allé voir le mais on a quand même réussi à avoir des photos de l'inauguration par d'autres biais amicaux. Mais voilà, c'était une petite représailles parce que bah voilà, on avait un petit peu défloré la surprise. Mais oui, c'est vrai qu'on a, par rapport au poids que l'on a, par rapport au lectorat que l'on a, t'as raison de dire, c'est assez incompréhensible qu'on soit. Aux États-Unis, c'est différent parce qu'il y a un côté, il y a des journalistes qui sont invités, qui n'ont pas forcément des gros sites ou autres, mais ils sont là dans le milieu depuis aussi longtemps que nous. Il y a une sorte d'amitié ou de connivence qui s'est instaurée entre les gens d'Apple et eux. Et ils sont invités, et on se dit, bah, si eux, ils vont, sachant qu'ils ont un profil quand même assez Mac. Quelle logique fait que nous ne soyons pas invités aussi? Mais c'est les États-Unis, c'est encore autre chose. Ce que tu disais sur l'Europe aussi, c'est vrai qu'il y a un moment où on pouvait penser que s'il y avait un truc plus au niveau européen qu'au niveau français. Mais c'est pareil, quand on demandait un peu des explications, c'est jamais très clair et voilà, il y a une part de ce que tu dis, il y a une part de ce que je dis, et puis voilà, on n'a jamais une réponse très très clair et précis sur pourquoi bah, on est toujours un petit peu au deuxième, au troisième rang.
Clairement, mais par rapport à ce que tu dis, et je pense que tu résumes bien le truc, c'est qu'en tout cas, la situation, de notre point de vue, c'est qu'on en est un peu là. C'est-à-dire que bon, c'est comme ça, on cherche
Oui, on fait
pas.
avec, on se
Enfin.
débrouille autrement, mais
Ouais.
c'est un peu lassant parce que disons que ça implique d'autres choses, c'est que on en discute parfois, c'est que lorsqu'un produit est annoncé, donc vous faites le compte rendu, vous faites les articles sur l'annonce du produit au keynote, etc. Donc vous donnez les informations sur le produit. Une semaine après, les médias qui ont été sélectionnés par Apple publient leur premier test. Vous n'avez toujours pas eu le produit, donc. On a des lecteurs qui sont intéressés, ils lisent pas tous l'anglais, ils ont pas le temps, puis c'est notre boulot de parler de ce qui se des nouveautés quoi. Là pour le coup des gens l'ont les ont testés. Donc on en reparle, on fait une sorte de synthèse des tests qui sont parus. Après le produit, on l'a enfin entre les mains, on refait un test de on fait disons, pas qu'on refait un test mais on fait notre test de ce produit-là. Donc au final, on a parlé trois fois à peu près de la même chose, alors que les autres, bah, finalement, ils ont vu le keynote, ils ont reçu le truc, ils l'ont testé, et puis ils passent à autre chose. Et nous, il y a un côté des fois où on a l'impression de répéter, 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 parce que les produits arrivent petit à petit, et enfin, quand on les a, alors l'avantage que l'on a d'arriver en dernier, c'est qu'on a plus de temps pour les tester, c'est-à-dire que les Overdge ou autres, généralement, ils ont 3, 4 jours, et ils font des choses qui sont des fois pas mal. Hein, la vidéo, il y a tout, mais on sent que sur certains points, ça va, ils vont vite, quoi, parce qu'ils ont pas le, il y a une date d'embargo, donc faut se dépêcher, il faut publier, il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous, on a un peu plus le temps de faire des tests d'autonomie, de faire des tests de ceci, faire des tests de cela. Mais il y a quand même ce côté, c'est une fois que là, on commence à, on le fait au moment où pff, toute la surprise, c'est à comment le soufflet a commencé déjà un petit peu à redescendre. Et nous, on arrive en disant ah ben allez, c'est à nous de le tester maintenant, chouette. Mais voilà, toutes les fusions, les gens ont plus les lecteurs ont déjà aussi reçu le produit chez eux, donc oh, on perd ce côté ben, un peu de surprise quoi.
Mais par rapport à, justement à la première question, moi c'est toujours, enfin c'est une interrogation à laquelle on n'aura jamais de réponse. Je me suis toujours demandé si la situation serait identique si on n'était pas situé à Lyon mais à Paris et qu'il y aurait peut-être on serait en capacité à être plus présent, à faire peut-être un peu plus de lobbying. Enfin j'en sais rien. Peut-être que notre perception, en tout cas côté Apple, sera peut-être différente. J'en sais rien.
Oui, c'est voilà, c'est que le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment. Est-ce que c'est bah oui, vous faites pas de YouTube et nous on veut de, parce qu'ils ont aussi beaucoup mis l'accent sur les créateurs de contenu, comme on dit, mais pas que. Il y a des sites aussi, je veux dire, TechCrunch fait pas du YouTube, Engadget fait pas forcément des, enfin si, ils font de la vidéo, mais voilà. Il y a des sites très classiques qui ont accès aux machines sous embargo. On se dit ben pourquoi. Donc voilà, c'est qu'on n'a pas vraiment la réponse nette, claire, nette et précise. Et effectivement, au bout d'un moment, on se dit bon ben on fait, tant pis quoi, on fait avec et puis on fait autrement. Heureusement qu'il y a l'Apple Store.
Christophe, il y avait une question de Marc qui demandait, vous ne faites plus de livres sur les nouveaux systèmes macOS et iPadOS. Est-ce que vous comptez un jour éditer de nouveaux livres ?
Personnellement, j'aimerais bien, mais j'en avais un petit peu, enfin, je m'en étais un petit peu expliqué dans une news publiée récemment. Donc déjà, enfin les faire en interne, c'était beaucoup trop lourd et que voilà, Nicolas et Anthony finissaient l'été complètement épuisés et rincés à la fin de, enfin lorsqu'ils avaient fini de rédiger leur livre et j'ai envie de dire que c'était juste au moment où la période la plus compliquée de l'année commençait parce que ils finissaient leur livre, on va dire entre début septembre et fin septembre. Et c'est là après où on se prend tous les tests, les keynotes, le premier keynote de demi-septembre, puis quand il y a un autre keynote en octobre ou en novembre par rapport au Mac. Donc voilà, en interne, c'était tout simplement plus possible. Et puis il y a un autre problème qui est plutôt cette fois d'ordre logiciel, c'est-à-dire que avant, tu pouvais te dire, bon, bah, il y a un journaliste qui peut se prendre 2 ou 3 mois pour faire un livre, par exemple, sur les niveaux d'iOS et de macOS. Le système sort, et puis après, bah, c'est fini, on peut passer à autre chose. Le problème, désormais, c'est que les nouveautés sont tellement éparpillées. Là, on l'a vu, 18.1, 18.2, enfin voilà, surtout avec Apple Intelligence qui monte petit à petit en puissance. Là, ça voudrait dire qu'à chaque mise à jour, je ne sais pas si on peut l'appeler ça une mise à jour majeure, mais à chaque mise à jour d'iOS, il faudrait que Nicolas ou Anthony prennent facilement une semaine pour mettre à jour le bouquin. Donc, c'est tout simplement pas gérable dans l'état des choses. Après, voilà, moi, c'est quelque chose qui marchait bien. Il y a des gens qui sont, on va dire... je sais que ça intéresse du monde. Et si on a la possibilité de faire ça, peut-être avec, je sais pas s'il y a des personnes qui sont intéressées pour écrire des livres de temps à autre sur iOS ou macOS, qui n'hésitent pas à me contacter, on verra ce qu'il est possible de faire.
Et il y a Bingo Bob qui demandait, maintenant que le livre annuel s'est terminé, est-ce qu'il serait possible d'avoir des articles, le truc et astuces d'iOS et macOS afin de découvrir plus en profondeur les systèmes ? Et il disait, j'ai toujours eu l'impression que les livres bloquaient la création de tels articles qui permettent pourtant d'en apprendre beaucoup sur les usages des systèmes.
Bah, c'est pas une volonté éditoriale en tout cas de ne pas, de dire voilà, on parle pas de certains aspects parce que c'est dans le livre. C'est vrai que par contre de temps en temps Anthony disait, enfin quand on parlait d'un truc et qu'on avait découvert et on en avait pas parlé Anthony, mais c'est dans le livre. Oui mais tout le monde n'a pas lu le livre. Je sais pas Florian ce que t'en penses, mais il n'y a pas forcément d'idée de... Il n'y avait pas un blocage éditorial, quoi.
Non, ce qui en général, on parle de trucs Asus ou de comment ça marche quand il y a des nouveaux systèmes. C'est forcément le pic de l'année ou enfin c'est le bon moment de l'année pour le faire parce qu'il y a plein de fonctions qui arrivent. On n'a pas de rendez-vous régulier de trucs et astuces. Alors c'est le truc qui est un petit peu amusant, c'est que au fur et à mesure que les sites web prenaient de l'importance et que les magazines papier perdaient de l'influence, les magazines papier se sont reconcentrés sur le truc et astuce, les tutos, les trucs comme ça, parce que l'actualité, c'était plus leur domaine. Et les sites web, par contre, faisaient beaucoup plus d'actu et un peu moins de trucs et astuces. C'est un type de sujet qui intéresse toujours les gens parce qu'on est toujours on ne sait jamais comment fonctionne complètement son ordinateur, son téléphone ou sa montre, même son Apple TV, on peut découvrir des trucs. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on a su, qu'on a oubliées, il y a des nouvelles fonctions, même nous, qu'on passe à côté parce qu'on sont un petit peu cachées. Donc c'est un sujet qui intéresse vraiment les gens, mais c'est toujours un petit peu compliqué de le... J'ai l'impression qu'on a, à part à travers les livres d'une certaine manière, mais on n'a jamais trouvé vraiment la bonne manière de le traiter sur le site, dans le sens où on est des sites d'actualité, donc il y a une sorte de flux, on met l'actu, hop, il y a une autre actu, puis voilà, ça va très vite, ça circule, ça monte, ça descend. Et les trucs et astuces sont un peu mélangés. C'est pas de l'actualité véritablement un truc et astuce. C'est quelque chose qui est un peu, qui devrait vivre un peu sa vie tout seul, séparé de ce flux d'actu. Et quand on en fait de temps en temps, on dit, ah, tiens, telle fonction ou autre, on le colle entre deux actus, puis après, ça disparaît au bout de un ou deux jours. Et il y a un manque, je trouve, de moyens de mettre ça en avant sur le site, d'avoir une sorte de repère en disant, les trucs et astuces, c'est là, c'est une partie dédiée du site, ou c'est un site dédié à ça, je sais pas. Mais c'est un peu, c'est pas comme de l'actu, quoi. C'est un peu... c'est pas très commun d'expliquer, mais c'est pas un sujet comme un autre, quoi. Et je trouve qu'on sait pas trop comment le mettre sur MacG ou sur iGen. On le fait un peu comme une autre actu, quoi, en fait, alors que c'est pas tout à fait pareil.
Il faudrait peut-être un rendez-vous régulier, ou une fois toutes les semaines, ou une fois tous les 15 jours, avec...
Ouais, c'est parce que dans la...
Des trucs et astuces d'un logiciel, ou quelque chose comme ça.
Dans l'absolu, on pourrait en faire non-stop, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une personne qui fait que ça, parce qu'il y a le truc et astuce de la fonction qui est toute nouvelle, du 18 point machin qui vient de sortir, et il y a des trucs et astuces qui existent depuis 5 ans, 10 ans, mais il y a à la fois des gens qui les ont oubliés, qui les ont jamais su, il y a ceux qui arrivent, qui sont arrivés récemment sur la plateforme et qui n'ont jamais entendu parler de cette fonction. Donc entre ce qui est nouveau et ce qui est ancien et qui est là depuis un moment, il y a de quoi faire en faire constamment. C'est ce que font iCreate ou vous et votre Mac. Ils remplissent parce qu'il y a de quoi faire. Mais on n'a jamais trop su comment le valoriser, c'est mon impression, de manière efficace.
Christophe, une question qui était beaucoup demandée par rapport à la future application du Club IGN. Est-ce que tu as des informations à donner par rapport à une éventuelle bêta?
J'ai parlé à son développeur ce matin. Mmh. C'est une information, je ne veux pas en dire plus pour le moment. on l'a dit, on n'a pas trop avancé. Enfin, les périodes de Noël, ce n'est pas forcément la période où on peut avancer plus rapidement, mais on se rapproche petit à petit d'une bêta. Ça ne va pas tarder, pas patienter.
Ouais. Ok. Une question de Cumilardet Florian qui demandait qu'est-ce qu'ils faisaient avant MacG les membres de la rédaction ?
Rien. Tous en prison. C'est que de la réinsertion. Le ministre de la Justice qui vient tous les ans, chaque fois qu'il y en a un nouveau. Non, c'est très varié. On peut dire que tous étaient, enfin pas tous, mais beaucoup étaient étudiants. Christophe était étudiant avant, je dis pas de bêtises, quand vous avez lancé MacG. Mais pour plus, Félix était étudiant, sortait de l'école. Nicolas avait fait des études pointues de géographie. Il avait bossé dans une boîte. Christophe me corrigera parce qu'il a
vu les CV un petit peu avant. Ce qui est assez fou, c'est concernant Nicolas, et moi je comprends pas la décision qu'il a prise, mais je l'en félicite, c'est qu'en fait, il écrivait de temps en temps des papiers alors qu'il était dans sa dernière année d'études, et qu'il faisait effectivement, comme tu disais, un stage d'entreprise. Puis moi, j'aimais bien travailler avec lui, j'aimais bien ses articles, et je lui ai dit, ah, tu veux pas venir travailler avec nous, je t'offre un CDI, et puis voilà, quoi. Et puis donc, il avait effectivement la possibilité entre faire un travail en lien avec ses études, enfin, il avait fait quand même des études longues, hein, donc c'était 5 ans d'études, c'est pas rien, et parler alors à l'époque d'affaires de jailbreak sur e-génération, et effectivement, il nous a rejoints.
Et puis donc Nicolas, c'était de la géographie, donc il a fait voilà, il fait un tout petit tour par une entreprise avant, mais pas longtemps. Anthony, c'était de l'histoire, grosse et longues études aussi en histoire. Puis il a mis aussi un pied chez Apple, à l'éducation. Il a vendu du MacBook Air, ce monsieur. Et il a fait deux trois choses, mais il est arrivé à peu près en même temps que Nicolas, très jeune, lui aussi. Il est sur les anciennes photos, il faisait jeune. Et puis Stéphane, bah, pareil, sorti de l'école, on était allé à sa soutenance de quelque chose dans l'information et communication. De mémoire, avec Christophe, on était allés tous les deux. Et il est, bah, je crois qu'on l'a il a travaillé un petit peu pour nous. Puis enfin, il nous a rejoint. C'est un peu la même chose pour les développeurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont rejoint MacG après, bah, soit un contrat d'alternance, soit après l'école, parce qu'ils avaient bossé pour nous, c'était plutôt satisfaisant et on les a embauchés. Et pour ce qui me concerne, moi j'étais, bah, je suis passé par des magazines Mac en fait. J'ai fait trois magazines Mac. SVM Mac, un dont j'ai oublié le nom, qu'on avait fondé, et avec mon ancien rédacteur en chef. Et après, je suis allé chez Univers Mac, qui appartenait au groupe Test. Donc c'était l'ordinateur individuel, micro hebdo, gros groupe informatique, qui a été racheté par BFM il y a, bah, longtemps de ça. Et BFM, le monde Mac, voilà, c'était pas trop leur truc. Donc ils ont arrêté Univers Mac, et au hasard d'une discussion avec Christophe, un peu sur toute autre chose, bah, j'ai appris qu'ils cherchaient quelqu'un.
Il y a Pierre qui était dans la presse papier
et
aussi.
Pierre, j'allais oublier Pierre, qui a lui aussi a fait de la presse papier. Donc Canard PC, lui plus donc la
c'était
presse.
Hardware, ouais, Canard PC Hardware, et avant c'était Tom's Guide ou un truc comme ça, je crois.
Voilà. Donc un autre type de presse, beaucoup plus tech, mais beaucoup plus tech, beaucoup plus techno, matériel, jeux vidéo. Mais il est un petit peu comme Nicolas, il est un petit peu touche à tout. Je sais pas, je me rappelle plus s'il était très fan d'Apple depuis toujours ou si c'est venu un petit peu comme
Ah si,
certains.
il y a son blog, le blog du lapin, sur lequel il a toujours publié des trucs, donc ouais.
Mais disons qu'il a un peu cette double casquette, il connaît bien le monde PC, il connaît bien le monde Apple. Donc voilà, c'était assez varié, ouais, en gros.
Ce qui est intéressant, c'est dans le profil des journalistes, des étudiants qui sont, enfin, qui nous ont rejoints, il y avait, donc toi, Félix et Stéphane, vous étiez dans le domaine, enfin, le domaine du journalisme, plus ou moins, donc c'était quelque part on va dire la suite logique. Mais effectivement, après, il y a d'autres profils comme Nicolas ou Anthony. Ouais, c'est pas forcément évident qu'ils se retrouvent comme ça ensuite à devenir journaliste pour Mac Génération. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le CV qui fait que on recrute un profil ou non.
Il y a une question d'Imaxime sur le chat, c'est pour toi Christophe, après je sais pas si on peut y répondre. Il demande est-ce que le CMS interne des nouveaux sites a vocation à être open source ou est-ce qu'il va rester privé?
Ah, mais ça, c'est limite. Les Cédric et Robin qui seraient
Oui,
le plus à
ils sont
même d'en
pas là.
parler. Donc là, grosso modo, on a vécu pendant des années, enfin pendant plus d'une décennie sur Drupal, et petit à petit, petit à petit, on est en train enfin voilà, de scier cette branche parce que ce Drupal est devenu une sorte d'énorme usine à gaz. Et là, l'idée, c'est de trouver, enfin, il travaille justement sur un projet. La première étape était de séparer les fronts et que les fronts récupèrent les informations via des API de Drupal Et donc voilà, maintenant la prochaine étape est de déconnecter entièrement Drupal de notre architecture. Et je crois que Robin et Cédric ont quelques bonnes idées avec des projets open source avec des noms un petit peu barbares.
Florian, il y a Totogi qui demande comment on s'organise pour avoir du contenu tout le temps, surtout le week-end.
On travaille non-stop.
Travaille même le week-end.
Ouais. Le week-end, Christophe est absolument impitoyable là-dessus. Non, comment on fait? On a des journées à peu près standards au niveau des horaires. Voilà, ça dépend. Certains se lèvent un petit peu plus tôt. Avec Nicolas, on est peut-être un peu les deux qui nous levons un peu plus tôt que les autres pour regarder un peu ce qui s'est passé pendant la nuit, parce qu'il y a toujours cette histoire de décalage horaire avec les États-Unis, qui fait qu'il peut toujours y avoir une actu qui a été publié un petit peu tard, qui est arrivé un peu tard, enfin pendant la nuit chez eux, donc on regarde un peu le matin. Quand on voit qu'il y a certains sujets qui sont intéressants, qui peuvent être faits pas trop, qui prennent pas trop de temps, enfin je parle plutôt pour moi parce que je dois venir au bureau, Nicolas est en télétravail, donc c'est moins le problème, mais voilà, qu'un sujet qui peut être fait le matin à 7h, ben lui ou tous les deux on fait nos sujets, on les publie, ça permet de lancer un petit peu la matinée. Et après, on se retrouve, donc après, les autres arrivent vers 8h, 9h30. Moi, j'arrive un petit peu après dans ces eaux-là. Et puis, il y a une journée normale qui se fait. Et ensuite, on a instauré depuis assez longtemps maintenant, sur ordre de Christophe, une soirée, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, il y en a un qui, bah, mettons, entre 21h et à l'époque, ça pouvait aller jusqu'à minuit. Mais maintenant, c'est un petit peu calmé, mais on va dire entre 21h et 23h, 22h30. Bah, il y en a un qui, chez lui, qui se met dans son Mac et puis qui regarde un petit peu l'actu, parce que les États-Unis sont, c'est pas c'est un peu le gros moment de la journée. Et là, ça dépend. Il y a certaines actus qui ont besoin d'être publiées tout de suite parce que c'est vraiment important. Donc, vous aurez des actus à 21h30, 22h, voilà. Et il y a d'autres sujets qui sont intéressants parce qu'on va les faire, mais qui n'ont pas nécessairement besoin d'être publiés tout de suite. Et encore moins à 23h45 parce que les gens commencent un petit peu à penser à autre chose ou être couchés. Et là, on va les programmer pour le lendemain matin. On le fait de moins en moins, ça. Enfin, le matin, moi, quand je me lève, je regarde. C'est rare que je vois des articles qui ont été programmés pour le matin. Mais c'est arrivé, on le faisait pas mal. Et puis ensuite, donc ça, c'est la semaine. Donc on se relaie. Et puis on a Greg maintenant qui prend les deux tiers de la semaine le soir, qui fait ce travail de veille en soirée. Et puis le week-end, Greg en fait un petit peu, et après c'est un petit peu chacun, c'est-à-dire que le samedi matin, il y en a qui va jeter un œil, ah oui, tiens, il y a quelque chose, bah, je fais une petite actu. Ça va pas être des gros sujets parce que généralement il y en a pas trop. Et puis il y a des articles qui ont donc on alimente un petit peu comme ça, mais le week-end c'est quand même on se calme quand même pas mal. Et le week-end, il y a des articles qui ont été préparés la semaine, des articles qui sont pas chauds, qui peuvent être liés à l'actualité, mais qui n'avaient pas besoin d'être publiés immédiatement, qu'on garde comme ça pour le week-end, histoire d'animer un petit peu le week-end et qu'il y ait un petit peu d'activité sur le site. C'est un peu ce que font tous les quotidiens d'ailleurs, c'est d'avoir un peu des sujets froids qu'on lira avec, ou on aura peut-être un peu plus le temps de les lire aussi, parce que la journée, le problème, c'est que certains longs sujets vont être passer un petit peu en diagonale parce que ça tombe au milieu d'autres actualités, donc on les passe un petit peu vite. Quand on a des sujets, voilà, qui sont pas très chauds, qui sont un peu longs, ben on les garde un peu pour le week-end. Ça permet d'étaler un petit peu pendant la semaine. Voilà, on est un petit peu organisé comme ça. Donc fonctionnement normal la journée, quelqu'un le soir qui surveille. Et le week-end, un petit mélange de sujets qu'on fait comme ça en fonction de l'actu et puis de sujets programmés.
Ouais, c'est des papiers clubs ou des sondages en général le week-end. Donc.
On avait eu pendant un temps, il y avait Mickaël qui faisait, qui longtemps, bah, comme il était au Canada, à Montréal, lui avait, il était sur ce fuseau horaire différent, donc il couvrait un peu la soirée. Il commençait à travailler à partir de l'équivalent de 15 heures chez nous, donc ça permettait de couvrir un petit peu, près, pas 24 heures, mais bon, pas loin quand même. Donc voilà, Mickaël est parti, il est allé bosser sur un autre site. Du coup, on s'est réorganisé sur le fonctionnement qu'on a longtemps eu de ces soirées.
Christophe, une question de Totogi qui posait quelques questions sur le financement. Il demandait par exemple les pourcentages provenant du club, comment ça marche au niveau des liens affiliés, des sponsors, un peu tout ça.
Eh ben, c'est assez compliqué à répondre parce que là, justement, on est quand même au mois de janvier et le bilan sur 2024 n'a pas encore été fait. Donc, j'ai pas forcément, pour l'instant, il y a des choses qui ont beaucoup évolué ces derniers temps, donc j'ai pas forcément une image très très précise. Mais ceci dit, j'ai un petit peu rassemblé quelques informations. Donc, ces dernières années, on a eu tendance à faire un chiffre d'affaires à peu près de l'ordre de 800 000 euros. Et pour information, le club, c'est environ 30 à 35% du chiffre d'affaires général. Donc, c'est quelque chose maintenant qui est devenu important et significatif. Donc, je pense de toute façon qu'on n'en serait pas là si on n'avait pas lancé le club Hygène à la fin des années 2010. Voilà, c'est devenu quelque chose de complètement vital à notre activité. Après, c'est là où j'ai plus de mal à donner des chiffres très précis parce que ça a beaucoup évolué. Donc, grosso modo, il y a trois manières de gagner de l'argent, hein, comme il le disait. Tout d'abord, il y a l'affiliation. Donc, l'affiliation, c'est entre autres les liens traqués que l'on met dans certaines actualités promo, notamment sur Amazon, l'Apple Store, la Fnac, Darty ou d'autres. Bon, je crois que enfin, c'est pas un scoop. On va dire que en termes d'affiliation, notre plus gros partenaire, ça reste Amazon et de très 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 loin. Fut une époque, ça a longtemps été l'Apple Store où c'était un programme qui marchait très 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 bien. Mais Apple a tout fait en sorte pour saborder son programme d'affiliation, en tout cas pour le rendre moins intéressant, en faisant des choses qui d'ailleurs d'un point de vue qui pour moi ne sont pas du tout fair d'un point de vue business. Ça a commencé avec l'iPhone en 2007. Alors nous, quand l'iPhone est sorti, qu'on a vu qu'Apple ciblait avant tout son Apple Store pour le vendre, on s'est dit bah ça va être super, on va pouvoir gagner des sommes relativement importantes. Et puis bah ils nous ont envoyé un petit mail pour dire ah non non désolé l'iPhone vous ne toucherez pas de commission sur ce produit. Et maintenant à chaque fois qu'il y a une nouveauté un petit peu marquante, eh ben, notre niveau d'affiliation est de 0%. Ce qui fait qu'il y a, voilà, en plus, on les voit, les reports, de temps en temps, ça nous arrivait de voir des centaines et des centaines de ventes d'iPhone, avec le montant des iPhones, le montant de la commission, et puis à la fin, bah, 0, 0, 0, 0, 0, une longue liste de zéros. Donc voilà, après, il y a tout ce qui est, on va dire, bannière, que ce soit sur l'application ou les sites qui sont, voilà, pour 95% géré par des régies publicitaires. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui a beaucoup, enfin, qui a vraiment le vent en poupe ces derniers temps. Et puis après, bah, il y a tout ce qui est, entre guillemets, tout ce qui est vente directe. Donc là, c'est maintenant, enfin, c'est de plus en plus des billets sponsorisés, mais ça peut être aussi des campagnes d'affichage sur l'application ou sur les sites. Donc là, bah, je sais pas si on est là pour faire de la publicité, mais il y a des sociétés que vous pouvez voir fréquemment. Alors ça peut être des vendeurs de VPN comme CyberGhost ou Surfshark ou NordVPN. Ça peut être des vendeurs de solutions de sécurité comme Intego ou Inconi. Ça peut être aussi des vendeurs type Macway ou Pearl. Enfin voilà, ou des gens qui appartiennent un peu plus, on va dire, à notre écosystème et qui sont intéressés par faire de la publicité en direct sur nos supports.
Florian, une petite question sur l'intelligence artificielle de Mano, qui demandait comment est-ce qu'on l'exploite au sein de la rédaction? Est-ce que c'est devenu notre collègue incontournable ou est-ce que c'est encore ou est-ce qu'elle est encore en stage d'observation?
Non, elle est toujours dehors.
Ouais.
Et puis en ce moment, il fait froid.
Allez.
Non, oui, elle est assez en dehors de la rédaction. C'est-à-dire qu'on n'a pas. Enfin, si la question c'est est-ce que vous confiez, entre guillemets, la rédaction d'articles à ChatGPT ou est-ce que vous confiez la réalisation de visuels à l'un des autres outils, comme ça se fait sur d'autres sites, maintenant on le voit, il y a des sites, on voit des visuels, enfin on sait que ça a été fait par des... Il y a une sorte d'unité dans le style, puis voilà, on sait que ça a été fait comme ça. Et on voit aussi des sites qui s'en cachent pas du tout, hein, mais des sites par exemple d'actualité financière, où on lit l'article, la valeur de l'action, et puis on arrive à la fin, cet article a été écrit avec, je sais plus comment c'est formulé, mais voilà, c'est très clair que c'était écrit avec une IA. Donc tout ça, il y a eu des expériences qui ont été faites. Tout ça, non, on s'en sert absolument pas de cette manière. Et j'ai fait un petit tour des autres pour savoir comment ils utilisaient un petit peu ces outils. Finalement, pas tant que ça. Les cas personnels, bon, certains font des petites bricoles à titre personnel, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt pour MacG. Stéphane m'a donné quelques exemples où, par exemple, il disait, je m'en sers parfois. Alors, il y a un truc qui est intéressant qui est assez intéressant, c'est pour la retranscription textuelle de contenu audio, c'est-à-dire qu'il va faire il va appeler quelqu'un, il va faire une interview, il y a trois quarts d'heure d'enregistrement audio, c'est super long à retranscrire soi-même quand on veut reprendre ses notes. On n'est même pas en train de faire l'article, mais c'est juste reprendre ses notes. Quand vous faites de la sténo, ça va, mais quand vous devez le faire à la main, c'est très long, c'est très fastidieux, et il y a des outils maintenant comme MacWhisper qui permet de retranscrire en texte un contenu audio. Ça marche de mieux en mieux, ça va au fur et à mesure de l'amélioration des modèles, de la puissance des machines. Donc ça permet de gagner du temps. Et Stéphane me disait aussi, parfois, quand j'ai trouvé un titre pour un article, parfois on écrit son article, puis on se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme titre? Il y a des moments, ça vient tout seul, on a une bonne idée, on a un bon jeu de mots, un bon truc comme ça, et puis il y a des moments, c'est un peu le blanc, parce que le sujet est pas très... Bah, ce matin, j'ai fait un sujet sur la réunion des actionnaires Apple. Bah, pendant 5 minutes, je me suis dit comment je vais titrer ça. Donc, des fois, on a une ébauche de titre, une petite idée. Donc, Stéphane disait, moi, je me sers des fois de ChatGPT, je soumets mon truc, je vois ce qu'il me propose, je modifie, ce genre de choses. Ça va être trouver un synonyme, ça va être traduire une phrase. Par exemple, dans certains domaines qu'on ne traite pas forcément souvent, il y a des termes juridiques ou financiers ou autres, on n'est pas trop sûr, donc on va se servir de ça pour la traduction et puis pour se faire aider. Donc, c'est plus des choses qu'on pouvait déjà faire, en fait, c'est-à-dire que ce ne sont pas des nouveaux usages, mais c'est des choses qu'on faisait avec d'autres logiciels séparément. Antidote va vous donner des synonymes, Kaleidoscope va vous permettre de comparer deux versions de texte pour voir ce que l'éditeur, mettons, il a changé une phrase dans sa formulation, Kaleidoscope va vous permettre de comparer facilement, ChatGPT peut le faire aussi, ChatGPT peut traduire, Claude peut vous donner la définition d'un truc. Bref, c'est des choses qu'on faisait déjà, et qu'on peut faire avec ces outils, soit avec un seul outil au lieu d'avoir quatre logiciels, et on va pouvoir le faire peut-être beaucoup plus vite. Mais ça reste très... donc c'est plus de l'assistance, et puis on est toujours derrière pour... voilà, il n'écrit pas à notre place, quoi. C'est juste des petits coups de main. Mais dans l'absolu, ça reste vraiment très, très marginal. Je pense pas qu'on s'en serve, moi je m'en sers pas, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a instauré, qu'on a développé. On a vraiment cette idée de, les articles qu'on fait, on les fait nous, voilà, avec les... il peut y avoir des erreurs, mais voilà, les erreurs, les articles, c'est nous qui les faisons, on se débrouille tout seul, on se fait aider avec Google ou autre, mais on confie pas la réalisation d'un texte à une IA. Même si dans certains cas ça pourrait être assez facile, parce qu'il y a des sujets qui sont, quand il y a quelqu'un qui décède, la dernière fois j'avais eu le cas de, c'était un des fondateurs d'Intel, qui c'était un samedi, on apprend qu'il est décédé. Bon, j'ai fait l'article en allant à droite, à gauche chercher des informations. Typiquement, on se dit, ouais, c'est le genre de sujet, à la limite, je suis sûr qu'un ChatGPT le ferait très bien, et probablement, mais il y a un côté, si on commence à mettre le doigt de là-dedans, on se dit, bon, on va le faire pour ça, on va le faire pour ça, on va le faire pour ça. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on n'aura plus trop ces réticences. Mais voilà, il y a ce côté, ouais, mais là, on fait un petit peu croire à la personne qu'on a écrit l'article alors qu'on l'a fait faire par autre chose. Et je ne parle pas des risques d'informations erronées ou autres qu'on connaît tous. Donc voilà, pour l'instant, c'est assez largement tenu à l'écart de ces outils, sauf pour des besoins très ponctuels et pas très différents de... Voilà, c'est juste qu'au lieu d'utiliser Google, on va utiliser ChatGPT pour... mais voilà, mais ça reste très, très marginal. Ouais.
Personnellement, moi, je m'en sers quand même pour... la création d'images, je trouve que c'est un outil qui est quand même, alors c'est pas encore parfait, mais ça permet de faire des choses des fois, d'illustrer, alors des fois avec plus ou moins de réussite,
Disons qu'il y a le truc des images, c'est qu'il y a des sujets où on... encore, je prends l'exemple là, de la réunion des investisseurs, l'Assemblée générale des investisseurs d'Apple. Pour l'illustrer, parce que l'idée, c'est d'avoir un texte où... Bon, j'ai mis un tableau parce que ça faisait partie de l'info, mais c'est pas mal des fois d'avoir une image qui amène un peu plus de légèreté. Et il y a des moments, il y a des sujets, c'est un peu compliqué de trouver des images. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, pourquoi pas recourir à une IA. Mais c'est vrai, il y a un traitement de l'image qui est encore un petit peu... on sent le côté un petit peu artificiel quoi, dans certains cas. Ou alors, il faudrait peut-être avoir une sorte de charte graphique au niveau du site. Enfin, il faudrait qu'il y ait une sorte de cohérence globale. Mais on est assez... Voilà, c'est assez... Les avis à l'intérieur de l'équipe sont assez partagés là-dessus, avec des fortes oppositions et d'autres un peu plus souples, mais qui en font un usage quand même mesuré.
Mais moi, je trouve que c'est un outil d'aide à la rédaction qui est formidable. Alors, attendez, hein, je suis tout à fait d'accord avec Florian, et que ce soit clair, parce que c'est un petit peu, d'ailleurs, dans les réactions, dit, quand il y a un article qui n'est pas populaire ou quelque chose qui a été mal compris, ça a été « Ah, c'est rédigé avec ChatGPT ou je ne sais pas trop quoi ». Mais moi, je me souviens d'avoir écrit une fois un article, et c'était dans un enchaînement d'idées, j'étais pas satisfait de la formule, de la formulation, je tournais un petit peu en rond, ça faisait déjà 20-30 minutes, et paf. Et je me dis, ouais, non, attends, il y a un truc qui va pas. Et puis après, je copie-colle ça dans ChatGPT, je lui dis, est-ce que tu peux me réécrire ça un petit peu différemment? Et il a réécrit effectivement différemment, alors sa formulation n'était pas parfaite, mais c'était, ah ouais, comme ça, c'est pas bête, ah, attends, je vais prendre en partie ça, je vais l'éditer, je vais encore le remettre à ma sauce, je vais faire 2-3 modifications. Et voilà le truc, des fois, sur lequel vous pouvez tourner en rond pendant assez longtemps, d'utiliser ça, c'est une... Ça vous apporte, ça peut vous apporter la lumière, pas toujours, hein, de temps en temps.
Oui, ça rappelle un petit peu, c'est un peu le cas de figure quand tu as des articles qui sont signés par 2-3 personnes, 2-3 journalistes. Bon, on imagine qu'ils se sont concertés un petit peu pour, puis un a pu dire, il y a cette idée, je sais pas comment la tourner, l'autre va lui dire, tu pourrais faire comme ci, comme ça, et le ChatGPT peut jouer ce rôle.
C'est ça, ouais.
Et même dans la traduction, il y a des moments, moi je lis un texte, parce qu'on lit quand même 90% du contenu que nous lisons avant d'écrire, c'est de l'anglais généralement, parce que l'actualité informatique vient essentiellement est produite essentiellement en anglais. Et il y a des moments, je comprends très bien ce que je suis en train de lire, mais à force, comme ça, on se dit, c'est tout bête, hein, mais en français, comment on dit ça déjà? Et puis on cherche, donc un coup de Google Trad, il sort le truc, alors des fois ça tombe un peu à côté. Mais il y a des moments où on se dit, effectivement, c'est ce mot-là que je cherchais, ça décoince, ça donne d'autres idées, on va pas prendre le truc tel que, puis on copie-colle, et puis c'est bon, mais c'est, effectivement, parfois, ça peut un petit peu décoincer, mais faut aussi, je pense qu'on a peut-être pas toujours, dans l'équipe, tous ce réflexe d'aller vers ces outils, parce qu'on a un peu des habitudes de travail,
Et puis, pour compléter, les développeurs s'en servent également, les développeurs s'en servent beaucoup plus, notamment avec Copilot, notamment pour l'autocomplétion de code pour les développeurs web. Chez Artem utilise aussi beaucoup les fonctionnalités d'intelligence artificielle dans Recast. Il m'en a encore parlé ce matin. Et on va sans doute utiliser de l'intelligence artificielle pour faire... certaines choses dans les mois à venir. Mais il y a par exemple un exemple tout bête, on l'a toujours pas fait, et ça c'est plutôt du machine learning. C'est par exemple, de temps en temps, lorsque, pour reprendre l'exemple de Florian, vous avez une image pour illustrer votre article, en fonction des supports, elle va être redimensionnée de 150 façons différentes. Alors imaginez que vous faites une redimension d'une image avec Tim Cook en plein centre. L'idée, c'est que, quel que soit le format, on voit bien le visage de Tim Cook et pas ce qui est à gauche ou à droite. Grosso modo, ça fait partie des choses où... ça fait partie des pistes sur lesquelles on voudrait travailler. Il y a beaucoup de choses à faire.
Ouais. Christophe, il y a Mellor qui demande si est-ce qu'on voudrait rester sur un public francophone ou est-ce qu'on a déjà pensé à avoir une version internationale de MacG?
Il y a souvent eu des projets de version internationale de MacG, en tout cas des idées. On n'a jamais franchi le pas pour l'instant, mais qui sait. Mais pour l'instant, voilà.
Avec l'intelligence artificielle.
Oui, voilà.
tout traduit, paf.
Florian, une question pour toi, c'est Donatello qui dit « Moi qui suis un historique, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que la hype Apple n'est plus ce qu'elle a été. Cela transparaît même dans vos articles qui n'ont plus le ton en amoureux d'autrefois et qui peuvent être parfois franchement grinçants. D'où ma question, vous arrive-t-il de douter ?»
De douter, non. Non, mais après, il peut y avoir une sorte d'habitude qui s'installe. En fait, ça marche quand même pas mal par période. Ouais. C'est-à-dire que si on prend le cas du Mac, quand Apple est allé sur Intel, bam, c'était une grosse annonce, il y a beaucoup de choses qui changeaient. Et puis ensuite, on a eu les évolutions successives de processeurs. Bon, on est rentré dans une certaine forme de normalité où il y avait des changements de temps en temps. Il y avait un nouveau type de machine qui arrivait, donc on se dit tiens, ah, mais pas mal. Où il y avait un nouveau design de machine. Ah bah tiens, ça brise un peu la monotonie. Et puis après, on retourne sur une activité un peu plan-plan. Les processeurs Apple Silicon arrivent, le premier MacBook Air M1, c'est assez fabuleux. Et puis après, bon, M2, M3, pareil, il y a une nouvelle normalité qui se réinstalle, paf, ils sortent le Mac Mini M4, on se dit, ah ouais, tiens, il y a un truc, c'est pas mal. Donc il y a un petit peu ces pics comme ça, puis de temps en temps, entre les deux, oui, forcément, il y a des moments un peu plus de creux, donc il y a d'autres produits qui prennent le relais, mais les iPhones, c'est un peu pareil, il y a une certaine, il y a eu le pic Face ID, il y a eu des pics avec, quand ils ont changé les formats. Donc voilà, Apple, de temps en temps, on peut pas y avoir de tous les ans des produits sensationnels. Donc nous, comme on a un petit peu le nez dessus 24 heures sur 24, on est peut-être un peu plus, j'allais dire blasé, mais c'est pas forcément un tort d'être blasé. C'est-à-dire que blasé, c'est de se dire là, ce produit par rapport à celui de la dernière fois, il n'y a pas de gros changements, il n'y a pas de quoi faire, waouh. Bon, c'est un petit peu ça de temps en temps avec Apple. Après, est-ce que ça, forcément, oui, ça peut se sentir forcément dans les articles, parce qu'il y a des moments, on se dit, on teste une machine, on se dit, les iPhones, c'est le cas type, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, ou même les Apple Watch, il n'y a pas des gros bouleversements, donc on a l'impression un petit peu de, quelque part, de redire ce qu'on a dit l'année précédente, et puis voire de l'année encore d'avant. Donc on a un peu l'impression de tourner en rond. Ça peut se ressentir, oui, je plaide coupable des fois sur certaines tonalités d'articles, mais puis c'est une boîte qui va pas forcément prendre de risques comme d'autres boîtes, c'est-à-dire qu'ils vont pas se lancer, tiens, on va lancer une paire de lunettes, ah puis ça marche pas, allez, 6 mois après on lance un autre truc, et puis un autre truc, et puis un autre truc. Il n'y a pas le côté foufou qu'il peut y avoir d'autres boîtes, ce qui est pas plus mal, parce que lancer des produits comme ça dans tous les sens qui sont à moitié finis, c'est peut-être pas non plus une bonne stratégie. Mais oui, Apple est quand même une boîte qui avance un peu plus lentement, de manière avec prudence, avec des précautions. Il y a un rendez-vous annuel par an pour les systèmes. Il n'y a pas tous les 3 mois, tiens, une super nouveauté dans iOS ou dans macOS. Il y a un côté très rythmé, très carré comme ça au niveau des plannings. On sait que tel moment de l'année chez Apple, il y aura ça, tel autre moment, il y aura ça. Il y a un côté à la fois prévisible, et puis bon, on va voir ce qui sort à chaque fois, mais on alterne entre le côté, tiens, à quoi va ressembler ce nouvel iPhone dont on nous parle là, mais puis on sait très bien à quel moment il arrive. Donc on est un peu sur ses deux pieds, quoi, un petit peu de surprise, un petit peu d'habitude.
Oui, c'est ça, ouais.
Voilà.
Moi, pour compléter ce que dit Florian, pour répondre clairement à la question de Donatello, vous arrive-t-il de douter ? J'ai envie de répondre oui, à chaque année, au mois de mai, quelques semaines avant la WDC. C'est toujours, on se dit, parce qu'on voit, ils n'ont rien fait, puis on se dit, waouh, et surtout l'année dernière, c'était pas au mois de mai, c'était limite en mars, quand on voyait le boom de l'intelligence artificielle partout, et qu'on voyait Apple avec son casque qui avait l'air complètement à côté de la plaque, et on se dit, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire, là, il faut sonner un petit peu la sonnette d'alarme et agir au plus vite. Et pour répondre à cette histoire de hype d'Apple, c'est clair que, de mon point de vue, le gros problème d'Apple en 2025, donc maintenant, c'est l'iPhone. L'iPhone est devenu c'est mon avis, mon point de vue personnel, est devenu un produit profondément ennuyant, c'est-à-dire qu'ils font des tas d'efforts pour le mettre à jour chaque année. Et finalement, enfin voilà, je pense pas qu'on ait beaucoup parlé dans les familles à Noël, que ce soit il y a, enfin en 2000, fin 2023, de l'arrivée du port USB-C et ou cet hiver du bouton pour l'appareil photo. Et c'est ça qui est assez, enfin voilà, elle est bloquée avec ce produit qu'elle vend, elle en vend encore des palettes entières. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, le produit ne fait plus rêver et surtout, je trouve qu'elle ne, elle est de, enfin Apple est devenue très très conservatrice. Il y a quand même eu un moment donné, par exemple, pour moi le dernier iPhone vraiment marquant, c'est l'iPhone 10 où ils se sont dit, ouais, ça y est, là on arrête, on fait un gros reset et on essaie de faire un truc novateur. Et là, effectivement, le smartphone d'Apple, en tout cas tel qu'on le connaissait, a connu une nouvelle ère et est entré, enfin voilà, avec un form factor légèrement différent, avec de nouveaux concepts. Enfin, c'était quand même un gros truc. Et là, enfin, moi, je le répète régulièrement dans Sortie de veille. Enfin voilà, le tort d'Apple, c'est de, on est en 2025 et ils n'ont pas d'iPhone pliant. Enfin, ça, et ça fait partie des choses où, alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le volume de l'Apple ou est-ce que c'est Tim Cook, mais le problème d'Apple, c'est d'être, sur bien des aspects, être devenu une société très conservatrice. Et c'est, je pense que c'est un souci qui fait que, du coup, elle fait moins, enfin, Apple fait moins rêver qu'à une époque. Et on l'a vu d'ailleurs avec le Vision Pro, où elle a été, enfin, elle a un produit qui, quelque part, fait rêver, parce que quand on utilise ce produit, on se dit, waouh, j'ai quand même rendez-vous avec le futur, quoi qu'on en dise, et pourtant, c'est pas les défauts de ce produit qui manquent. Mais elle a en aucun cas réussi à transmettre, et je parle pas aux geeks, hein, mais je parle vraiment aux utilisateurs lambda, l'envie de se dire, ah ouais, ah, ce truc, ah, c'est fort, ah, c'est impressionnant, j'ai hâte de l'utiliser. Et bah, je sais pas si c'est enfin, je sais pas si c'est un problème de vision ou quoi que ce soit, mais oui, Apple a quelques problèmes à ce niveau-là et elle est un petit peu à la croisée des chemins. Et Florian parlait il y a quelques minutes de cette histoire de on va pas sortir de nouveaux produits tous les 5 minutes pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Quand on voit la roadmap pour les 18 prochains mois, il y a quand même beaucoup de nouveaux produits qui vont sortir et on a l'impression qu'à chaque fois c'est pour essayer des trucs. Donc enfin, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais à côté de ça, et moi le truc où je suis quand même justement, je suis pas du tout blasé, c'est Apple n'est peut-être pas aussi, comment dire, étincelante qu'à une époque, mais il n'y a jamais eu autant de produits dans la high-tech qui sont d'un niveau, je veux dire, très 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 relevé. Hein. Enfin, on peut parler par exemple de ce que Google fait avec ses smartphones. Enfin, il y a quand même le niveau moyen de l'électronique grand public qui a quand même fortement augmenté ces dernières années. Et il y a, alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais on se retrouve avec des produits des fois qui sont abouti et très simple, et je veux dire, Apple a quand même élevé le niveau très très haut, et il y a quand même beaucoup de boîtes qui essaient de suivre, et ça, c'est intéressant. Et pour finir, moi je veux parler entre guillemets d'enthousiasme, on est quand même dans une période où on a parlé avec l'intelligence artificielle, mais là je me demande s'il n'y a pas quand même un biais qui est un peu franchouillard quand même, parce que moi je le vois peut-être plus facilement parce que je suis à l'étranger. T'as fait une news, d'ailleurs, c'est toi, Félix, je crois, qui a fait une news il n'y a pas longtemps. C'est Sora que ça s'appelle, hein, j'ai un petit doute.
Oui, le truc vidéo de
Voilà.
Panini,
Et donc, Sora, ChatGPT annonce plus ou moins la disponibilité de ce truc. Et c'est là où on a un truc. Enfin, on peut, quoi qu'on en dise, Sora, c'est quand même un truc de dingue. Je sais pas.
ouais.
Il y a 20 ans, on t'aurait dit, tu vas taper un truc sur ton clavier, tu vas renseigner un prompt et tu vas voir ce que tu tapes en vidéo. Enfin. Quelqu'un t'aurait dit, mais qu'est-ce que t'as fumé, ça va pas, enfin, t'es pas bien, c'est juste pas possible. Et donc, on a ce truc-là qui est vraiment remarquable à tout niveau. Et puis, vous lisez les commentaires de Mac Génération, je sais pas, alors, on pourrait penser que les gens vont être un petit peu, comment dire, émerveillés par ce truc-là. Et bah, le troisième commentaire, c'est un truc sur le revenge porn. Et vous vous dites, non mais attendez, on voit des trucs de fou et on a tout de suite à penser à enfin, à des cas tordus, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est c'est un petit peu dommage de manière générale. On se rend pas compte forcément de l'époque dans laquelle on vit. On a commencé une révolution informatique, on va dire, c'est difficile de la dater, mais on va dire dans les années 70. On voit qu'on est encore en plein milieu, on est encore en plein milieu, et ça ne cesse d'accélérer. Et alors, quelque part, effectivement, ça fait peur, parce que on s'est dit, tiens, mais ChatGPT, à terme, ça peut effectivement piquer plein d'emplois, mais c'est quand même, enfin, on est sur des technologies qui vont révolutionner l'humanité, enfin, qui sont en train de le faire, en tout cas.
Eh ben, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Ben, merci à vous deux d'être venus, du coup.
Merci.
C'était avec plaisir. En tout cas, bonne année à tout le monde.
Ouais. Et puis, à la prochaine, du coup, à bientôt.
Ouais, à bientôt.